Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle séance décalage de l'Université populaire du musée du Quai Branly. Je vous rappelle le principe de ces séances. Deux intervenants comparent le traitement d'un thème dans deux aires culturelles différentes. Et nous avons ensuite une discussion croisée que j'anime, puis je vous donne la parole pour interroger les deux exposants. Ce soir, nous devions accueillir Soudhir Kakar, psychanalyste qui malheureusement n'a pas pu venir et est donc resté en Inde à Goa où il réside. C'est donc Catherine Clément, que vous connaissez bien, philosophe et romancière, qui nous parlera du mariage en Inde. Et pour la comparaison avec une aire culturelle qui nous est plus proche, nous sommes très heureux d'accueillir Irène Théry, qui est sociologue, directrice d'études à l'EHESS, qui est connue pour de nombreux ouvrages et contributions à des rapports sur le mariage et les transformations du mariage en France et plus généralement en Europe. Donc nous allons donner la parole à Irène Théry et ensuite à Catherine Clément.
Bonsoir à tous. Alors en effet, je vais essayer de ne pas dépasser mon temps. Vous me surveillez, hein. Pour essayer de donner une vision un peu générale, ce qui est très difficile pour une matière qui pourrait nécessiter des mois et des mois d'exploration, sur le mariage occidental. Et je me suis dit qu'une bonne façon d'en apercevoir la spécificité, c'était de partir de l'actualité la plus récente, c'est-à-dire le fait que, probablement, dans quelques mois, nous allons instituer en France un mariage de même sexe, que le président Obama, comme vous le savez, s'est prononcé à titre personnel en faveur de cette hypothèse, après avoir pendant longtemps résisté à cette transformation de la définition de l'institution. Et il me semble que prendre la mesure de ce changement suppose en fait de dépasser la rhétorique habituelle, militante, qui verrait cette institution d'un mariage de même sexe simplement sur le modèle de l'ouverture à des populations qui n'y avaient pas accès d'une institution qui ne serait pas transformée. C'est la thèse de pas mal de militants qui repose sur l'idée qu'il y aurait une discrimination à l'égard des homosexuels dans la définition actuelle du mariage et qu'il donc il conviendrait de leur ouvrir le mariage. En fait, cette présentation ne tient pas compte d'une chose très simple, c'est que les homosexuels ont toujours pu se marier. Il faut savoir que dans La recherche du temps perdu, Marcel Proust fait d'un de ses principaux héros un homosexuel marié. Peu de gens le savent parce qu'ils ne vont pas lire la recherche jusqu'au bout, donc ils s'arrêtent à Charlus et ils pensent que Charlus représente l'homosexuel dans la recherche. Et en fait, ça y est, j'oublie son nom, c'est celui qui épouse Gilberte Swann, l'officier. On va retrouver son nom tout de suite.
Qui dans la salle peut nous souffler le nom du mari de Gilberte
Bon.
Swann?
Bon. Je vais retrouver son nom.
Un petit brin.
Qui est l'ami du narrateur, qui est un officier, qui est un héros de la guerre de 14, qui épouse donc la fille de Swann, qui rassemble les deux côtés, qui par ailleurs donc a tous les attributs de la virilité, de la définition classique de la virilité, qui est une croix de guerre, mais qui perd sa croix de guerre dans un bordel pour hommes. Et dont on apprendra donc qu'il a une double vie. Donc il se mariait, il était père, mais la condition pour qu'il soit père, c'était qu'il épouse une personne de l'autre sexe. Donc il ne s'agit pas d'ouvrir le mariage aux homosexuels, il s'agit de redéfinir le mariage. Le mariage a toujours été défini comme l'union d'un homme et d'une femme. Et donc ce qui est en cause, c'est une redéfinition du mariage pour tous. Dans le sens où le mariage pourrait devenir non seulement ce qu'il a toujours été, l'union d'un homme et d'une femme, mais ce qu'il n'était pas, l'union de deux hommes ou l'union de deux femmes. Et donc ce changement, je crois que si on veut en prendre la mesure, il est important d'arriver à le resituer dans l'histoire, non pas simplement du rapport à l'homosexualité, mais des transformations du mariage lui-même. Si on ne perçoit pas que cette métamorphose de la définition du mariage vient après de nombreuses métamorphoses, et qu'elle s'inscrit dans des transformations de l'institution, je crois qu'on n'en perçoit pas l'ampleur et on n'en perçoit pas véritablement le sens, et on continue à reléguer les homosexuels à part, hein, comme une espèce de personne à part, une espèce de couple à part, alors que, en fait, ils participent tout à fait directement, les unions de même sexe participent tout à fait directement d'une transformation qui est celle de l'institution matrimoniale tout entière. J'avais essayé de poser ce problème en 98, au moment des débats sur le Pax, en faisant remarquer que s'il y avait une question qu'il fallait résoudre, dans l'hypothèse où on redéfinisse le mariage comme pouvant être l'union de deux hommes ou de deux femmes, c'était la question de la présomption de paternité. Mais à l'époque, ça n'était pas une remarque audible. J'avais posé ce problème parce que mon maître Carbonnier, Jean Carbonnier, le grand réformateur du Code civil, celui qui a introduit l'égalité des enfants naturels et légitimes, le divorce par consentement mutuel, l'autorité parentale dans la famille, disait, donc un très grand juriste, disait « Le cœur du mariage, ce n'est pas le couple, c'est la présomption de paternité ». Il considérait que ce qu'avait toujours été le mariage, c'était la fonction était de donner un père aux enfants qu'une femme met au monde. Que faire de la présomption de paternité dans les cas des couples de même sexe? C'était la question que j'avais soulevée, et en disant que si on ne voyant pas à l'époque, c'était en 97 ou 96, de solution à cette question, je disais si on souhaite une union officielle en mairie avec des droits, un rituel, un droit, des vrais droits pour le conjoint survivant, etc. Donc tout ce qui différencie un mariage d'un Pax ou d'une union libre, il s'agirait d'un partenariat civil ou de ce qu'on appelle union civile, mais on voyait mal comment ça pourrait être un mariage. Alors il se trouve que depuis en à peine 10 ans, cette question que j'avais soulevée sans me faire comprendre est aujourd'hui réglée, réglée. Elle peut être réglée, et en tout cas elle a énormément progressé au point qu'on se demande, et c'est une des questions, si on ne pourrait pas, c'est la question que je vais poser dans un livre qui va apparaître dans quelques mois, supprimer la présomption de paternité en général dans le mariage. Et donc ce qui en était le cœur pourrait après tout devenir accessoire, voire même disparaître. Alors, pour essayer de remettre en perspective ces débats qui concernent donc la définition du mariage, les fins du mariage, essayer de comprendre le changement, autrement que comme le fait qu'on se serait aperçu qu'on était homophobe et qu'on discriminait et qu'on ferait un mea culpa, alors que ce qu'on vit c'est une transformation, une métamorphose de l'institution, je crois qu'il faut revenir en arrière en pensant toujours à cette phrase de Mauss, je suis heureuse de citer Mauss ici, hein, les institutions véritables vivent, c'est-à-dire changent sans cesse. Et le mariage est une institution vive qui a toujours changé et qui a même connu des bouleversements dans son histoire très importants. Et pour en donner la mesure et resituer dans l'histoire longue les bouleversements récents, donc l'idée récente que l'on pourrait distinguer le mariage et la filiation et la présomption de paternité, ouvrir un mariage de même sexe, dans le temps long, je voudrais m'arrêter sur un moment de cette histoire très très important, qui est à l'entrée dans la modernité politique, avec la Révolution française en particulier pour nous, l'invention du mariage civil, et de prendre la mesure de ce que ça a représenté que cette invention d'un mariage civil, alors que le mariage, aussi longtemps qu'on se souvienne, n'avait toujours été auparavant que religieux. Cette invention du mariage civil, elle a une histoire particulière dans la Révolution française, mais elle n'est pas propre à notre Révolution, mais elle y joue un rôle très important qui explique d'ailleurs que chez nous, le rapport entre le civil et le religieux du point de vue du mariage n'est pas la même chose que dans d'autres pays démocratiques, dans d'autres traditions, comme la tradition américaine ou la tradition anglaise. Quelques mots pour rappeler un peu ce qui s'est passé à ce moment-là. Et comment donc la question du mariage, c'est aussi la question de la laïcité, c'est aussi la question des rapports de sexe, des idéaux d'égalité, des idéaux démocratiques. Et donc, quelques mots pour comprendre ce qui s'est passé au moment de la Révolution française, pour ensuite pouvoir apercevoir le temps long qui y a mené, et peut-être le temps plus court, mais quand même long, qui s'est écoulé depuis. Et je partirai d'une citation qui est celle du principal rédacteur du Code civil Napoléon, 1804, juste après la Révolution, Portalis, Jean-Étienne Marie Portalis, principal rédacteur de ce Code Napoléon, qui fut le premier Code civil des Français, et qui, on ne le sait pas toujours, avait été préparé par plusieurs versions successives pendant la période révolutionnaire. Et il décrit ceci: « Nous nous sommes convaincus que le mariage, qui existait avant l'établissement du christianisme, qui a précédé toute loi positive et qui dérive de la constitution même de notre être, n'est ni un acte civil, ni un acte religieux, mais un acte naturel qui a fixé l'attention des législateurs et que la religion a sanctifié. Un acte naturel qui a fixé l'attention des législateurs et que la religion a sanctifié. » Donc c'est important d'essayer de comprendre quel est l'enjeu de cette double négation. Pourquoi est-ce qu'on dit en 1804 ça n'est ni un acte civil, ni un acte religieux? Alors je ne peux pas reprendre toute cette histoire longue, mais je pense que c'est important d'avoir quelques éléments de connaissance sur ce débat, le débat qui a précédé pendant quelques années le moment où le premier Code civil des Français institue un mariage civil, sans en donner d'ailleurs de définition, et après des controverses très importantes qui ont eu lieu entre le premier acte, si vous voulez, de cette révolution, qui est l'édit de tolérance sur le mariage des protestants de 1787, jusqu'à la loi sur l'état civil, qui a établi un mariage civil le 20 septembre 1792, le jour de la victoire de Valmy, le dernier jour de la législative, à la veille de la terreur. Alors, traditionnellement, les historiens de la Révolution n'apercevaient pas l'importance de cette œuvre révolutionnaire sur le mariage. Ils avaient tendance à renvoyer le mariage du côté du domestique, des choses secondaires. Politistes ont longtemps sous-estimé cette question, et Carbonnier, encore lui, disait « c'est la gloire cachée de la Révolution française que d'avoir donné valeur constitutionnelle au mariage civil ». Donc ce qui était il y a encore peut-être 30 ans une gloire cachée, aujourd'hui je crois que c'est beaucoup mieux reconnu que cette question a été centrale. D'abord ça a été central parce que ça venait mettre un terme à un drame social, et plus qu'un drame, une tragédie, qui était la situation qui avait été celle des protestants à partir de la révocation de l'édit de Nantes. Hein, si on remonte un peu avant la Révolution française, donc la révocation de l'édit de Nantes, c'est 1685. À partir du moment où le pays est censé ne plus comprendre de protestants, il n'y a plus de protestants, ce qui se passe, c'est que les mariages des protestants sont considérés comme nuls et non avenus. Les protestants continuent de se marier, ils se marient au désert, mais leurs mariages ne sont pas considérés, leurs enfants sont perçus comme des bâtards, et donc c'est un scandale qui a été dénoncé à de très nombreuses reprises à la fin de l'Ancien Régime, entre autres par Malherbe et aussi par Portalis et par bien d'autres. Donc cet édit de tolérance sur le mariage des protestants qui est peut-être le premier pas vers un mariage civil, parce que on autorise simplement un officier, le juge du lieu, par exemple, il n'y a pas encore vraiment d'état civil, à enregistrer ces mariages. Les choses vont se précipiter à cause d'un problème de laïcité et de tolérance, à partir donc de la Constitution qui énonce aux yeux de la Constitution ne considère le mariage que comme un contrat civil. Au départ, c'est un problème, on va dire, de registre. On ne veut pas se prononcer, on ne veut ne voir dans le mariage que l'état civil. Mais à partir d'une question de registre, de 1789 à 92, le débat prend de plus en plus d'ampleur. On est amené à se poser la question, mais c'est quoi ce mariage civil qu'on ne fait que reconnaître? Il y a une affaire célèbre qui a précipité les choses, c'est l'affaire Talma, du nom d'un comédien très célèbre de la Comédie française, qui avait voulu se marier et qui est allé voir le prêtre de l'église Saint-Sulpice, qui avait refusé de le marier, puisque on excommuniait les catholiques excommuniaient les comédiens, et donc on lui avait refusé le mariage. Et il était allé se plaindre de discrimination, si on peut dire, devant la constituante. Et donc, ça avait, en disant que les droits de l'homme n'étaient pas respectés, et ça avait obligé à préciser la définition du mariage. À partir de là, il y a eu tout un débat qui a eu lieu sur c'est quoi ce mariage civil qui devrait être commun à tous, hein, qu'on soit comédien ou pas, voilà, en référence à l'universalité des droits, à l'égalité des droits, et qui pourrait être commun par-delà la différence des religions, en référence à la tolérance et à la liberté de conscience. Alors le problème qu'a posé ce mariage, la définition de ce mariage, c'est que tout le monde pouvait être d'accord pour reconnaître un mariage civil, mais tout le monde n'était pas d'accord sur le fait de savoir si ce mariage serait dissoluble ou ne serait pas dissoluble. Est-ce que ça serait un contrat comme tous les contrats qu'on pourrait dissoudre, ou bien est-ce que ce serait un contrat par nature indissoluble? Et sur ce point, il y avait des désaccords très importants qui d'ailleurs venaient renforcer des désaccords religieux. Les juifs et les protestants admettaient sous certaines conditions et sans le valoriser le divorce. Les catholiques considéraient que ce que Dieu a uni, l'homme ne le sépare pas, et le mariage sacrement était un mariage indissoluble. Et donc ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a eu tout un débat sur la définition du mariage. Alors j'avais préparé un texte, je n'aurai pas le temps de vous lire toutes les définitions du mariage qui ont été proposées au début de la constituante, mais on avait cherché à donner une définition du mariage civil. Et puis, mais c'était très difficile d'en donner une définition sans se prononcer sur la question qui faisait débat. Est-ce que le consentement est une condition du mariage, ou est-ce que c'est de l'essence du mariage, ce qui fait que quand les deux mariés ne consentent plus, eh bien le mariage pourrait être dissous. Et donc, à l'issue de... Donc, il y a eu tout un ensemble de définitions. Le mariage est l'état de deux personnes qui, réunissant les conditions prescrites par la loi, ont volontairement et non par aucun fondé de pouvoir contracté l'engagement de vivre ensemble et d'élever les enfants qui naîtront de leur union dans l'amour de la patrie et le respect des lois. C'était le député Jolivet, mais j'en pourrais vous en donner beaucoup d'autres. Le mariage est un contrat civil dont la condition essentielle est dans le consentement des époux. L'engagement doit être pris, ne peut être dissous que conformément aux lois, etc. Et alors, pour ne pas se mettre en désaccord, on en a dit de moins en moins. Et à la fin, voilà la dernière définition qui a été proposée, parce qu'elle est intéressante. C'est celle de Pastoret. Le mariage, dit Pastoret, non, Lesquineaux. Le mariage est un contrat civil qui unit pour vivre ensemble deux personnes de sexe différent. Alors ça, c'est la dernière définition, la plus minimale, qui était proposée pour justement éviter de se prononcer sur la question de la dissolubilité du mariage. L'union de deux personnes de sexe différent. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que l'Assemblée s'est esclaffée. Si on en est à dire que le mariage est l'union de deux personnes de sexe différent, alors où va-t-on, quoi ? Et donc, il y a eu une avalanche de rires qui a été la fin de ce débat. Et on en a conclu qu'après tout, il n'y avait pas besoin de mettre une définition du mariage dans le Code civil parce que chacun, je cite, était censé savoir ce qu'est le mariage. Et donc voilà la raison pour laquelle il n'y a pas de définition du mariage dans le Code civil. Ça n'est pas parce qu'on ignorait que c'était l'union d'un homme et d'une femme, c'était même une telle évidence qu'on aurait été gêné à l'époque de le préciser. Mais c'était parce qu'on n'était pas d'accord sur la dissolubilité de ce mariage. Alors, ce serait long d'ailleurs de faire l'histoire de cette dissolubilité. Finalement, en 93, la loi a prévu un divorce, a instauré un divorce plus libéral que celui que nous avons aujourd'hui, ce qui est quand même incroyable. Mais ensuite, après après Thermidor et la fin de la Révolution, on est revenu sur ce divorce très libéral. On a conservé pendant un certain temps le divorce, mais il a été aboli à la Restauration, puis il n'a été en fait réétabli qu'à la fin du XIXe siècle. Mais donc, le mariage civil, c'est un mariage qui est fondé sur le libre choix du conjoint, sur l'hypothèse d'une dissolubilité qui aura été ensuite discuté. Et donc, qui est conçu comme ce qui permet finalement de dépasser les affrontements religieux au nom de ce qu'on appelle un acte naturel, qui ne veut pas du tout dire un acte biologique, hein, mais qui veut dire un acte conforme à la nature humaine. Alors là aussi, ce serait très long, j'aurais pas le temps de développer toutes les points importants qui ont concerné cette définition d'un mariage selon la nature humaine, conforme à la nature humaine, qui n'est pas simplement donc c'est pas un mariage qui est défini simplement par la procréation, mais qui est défini principalement par sa vocation à la durée. D'ailleurs, Portalis parlait du plus saint des contrats, ce qui est assez intéressant aussi. Pour conserver de la définition du mariage indissoluble catholique, l'idée que la vocation du mariage, c'était la vie en commun jusqu'à la mort. Et que même si, par exception, on pouvait le rompre, et sa vocation était d'abord la durée, au moins jusqu'à la fin de l'éducation des enfants, et si possible, pour se soutenir toute la vie. Donc, à partir de là, je termine, il faut savoir qu'en France, cette définition du mariage civil s'est traduite par le fait que chez nous, il y a deux cérémonies. Il y a un mariage civil, comme vous le savez, que tout le monde doit aller faire à la mairie, et ensuite seulement un mariage religieux. Et on ne peut chez nous contracter un mariage religieux que si on a déjà contracté le mariage civil. Ça veut dire en quelque sorte que la définition civile du mariage, elle est dans notre imaginaire plus englobante que la définition religieuse. Le religieux relève du fort intérieur, de la liberté privée, et le mariage commun à tous, c'est celui qui est le mariage républicain, on peut dire, c'est pour ça qu'il y a une définition presque constitutionnelle, c'est celui qui est commun à tous. Et tous les débats qu'il y aura après, sur le mariage, sont des débats sur le mariage civil, commun à tous, qui peut s'écarter pas mal du mariage religieux. Et les débats en particulier, et c'est parce qu'on a un mariage civil qu'on a eu des débats, par exemple, sur le divorce, au XIXe siècle, puis encore au XXe siècle avec le divorce par consentement mutuel, hein, et qu'on a aujourd'hui des débats sur le mariage de même sexe, c'est un mariage civil de même sexe dont il est question. Et on peut séparer, chez nous, le débat sur un mariage civil du débat sur le mariage religieux. La question est plus complexe pour des démocraties anglo-saxonnes qui n'ont pas connu la même histoire et qui, tout en ayant un mariage civil, ou en ayant donné une dimension civile au mariage, ne sépare pas deux cérémonies. Aux États-Unis, vous n'allez pas d'abord à la mairie, puis ensuite à l'église ou à la mosquée ou à la synagogue. Vous faites un mariage, vous pouvez faire un mariage laïque, mais vous pouvez faire aussi un mariage religieux qui aura des effets civils. Le mariage religieux, qui est d'ailleurs beaucoup plus libre dans ses formes que chez nous, aura des effets civils. Donc, je ne veux pas dire que nous sommes les seuls à avoir un mariage civil, mais le mariage civil est contenu dans le mariage religieux comme une dimension du mariage religieux, sans qu'il y ait vraiment, en quelque sorte, deux mariages successifs qu'on peut clairement séparer. Alors, c'est très important pour comprendre les débats actuels sur le mariage de même sexe. Quand le président Obama s'est prononcé il y a 10 ans contre le mariage de même sexe, son principal argument... on sait que c'était un grand défenseur des droits des homosexuels, qu'il a fait advenir dans l'armée la fin du principe « don't ask, don't tell » qui obligeait les homosexuels à se cacher quand ils étaient à cacher leur orientation sexuelle dans l'armée. On sait qu'il s'est opposé à des propositions pour donner justement une définition fédérale du mariage comme l'union d'un homme et d'une femme. Mais il ne voulait pas accepter de redéfinir un mariage civil de même sexe. Il butait sur le mot, il était pour les droits, il était pour un partenariat, une union civile, mais il butait sur le mot. Et c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi est-ce qu'il butait sur le mot? Pour des raisons religieuses. Il disait, moi, je suis chrétien, c'est comme ça qu'il avait donné l'explication, je suis chrétien, et pour moi, le mariage, c'est quelque chose qui a une dimension de sanctification entre un homme et une femme. Et il ne voyait pas, il disait, dès lors qu'on accorde les mêmes droits à travers une union civile, exactement les mêmes droits, y compris l'adoption, disait-il déjà il y a 5 ans, au couple de même sexe, gardons le mot mariage pour définir l'union d'un homme et d'une femme. Alors, il a changé, ce qui est intéressant, en donnant de nouveaux arguments religieux. Ce qu'il dit maintenant, c'est qu'il y a une valeur religieuse qu'on peut mettre peut-être à qui on peut accorder plus une suprématie plus grande que l'idée que le mariage est quelque chose de saint entre un homme et une femme. C'est le précepte religieux, ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. Et donc, il explique avoir été transformé par, en quelques années par les témoignages de ceux qui ressentent la douleur de ne pouvoir bénéficier pour donner à leur lien, à leur amour, à leur vie commune, la dimension rituelle, publique d'un mariage, qui le vivent comme justement une discrimination. Et c'est de ce fait, ce point-là, où il est allé chercher un argument en fait de type religieux, une valeur religieuse, peut-être qui va donner plus englobante que celle du mariage lui-même. Voilà, alors je ne peux pas reprendre tout ce que j'avais prévu trop long, mais ce qui me paraît important, c'est de comprendre que depuis que nous avons, que le mariage en Occident, c'est un mariage qui a une histoire très longue, dont la particularité est d'avoir été une institution qui, de plus en plus, s'est définie, mais par des révolutions successives, comme l'union de deux personnes, enfin l'institution du lien de deux personnes, voulant organiser, rendre public et organiser leur communauté de vie. Et que le point particulier peut-être de ce mariage par rapport à d'autres mariages, c'est comment très progressivement, je pense que c'est quelque chose qui commence d'ailleurs, mais on aura peut-être le temps d'y revenir dans le débat, dès les débats des premiers siècles du christianisme sur le mariage et la façon dont à l'époque le mariage avait été valorisé, en particulier par saint Augustin, à l'issue de très grandes polémiques, comme ce qui permettait d'assurer l'union, le salut des âmes pour les époux et leur assurer une vie sexuelle qui n'était pas incompatible avec leur salut. Donc c'est quelque chose qui a intégré pendant des siècles la dimension de la procréation, de la filiation, mais qui, à partir du moment où on a organisé un mariage civil, a commencé à se redéfinir d'abord comme un lien entre deux personnes, moins une alliance entre deux familles pour assurer leur suite, leur descendance, moins l'alliance de deux familles que la relation, l'union, on va dire, de deux personnes qui se sont choisies, qui s'aiment, qui veulent partager une vie commune. Et le point d'arrivée de cette redéfinition, qui s'était faite donc par séparation entre le civil et le religieux, c'est le fait que dans le droit civil de ces dernières années, la distinction majeure qui justifiait de dire le cœur du mariage, c'est la présomption de paternité, c'est-à-dire la distinction entre les enfants légitimes et les enfants naturels, donc les enfants légitimes dont les parents sont mariés, les enfants naturels dont les parents ne sont pas mariés, qui peuvent être plusieurs sortes d'enfants naturels d'ailleurs, mais qu'on appelait vulgairement les bâtards, c'était autrefois cette distinction, une distinction organisatrice de toute la vie sociale. Pour un enfant, naître hors du mariage, c'était une honte, un stigmate, il était un paria social, alors a fortiori s'il était né d'un adultère, et encore a fortiori s'il était né d'un inceste. Mais c'était d'abord, les bâtards étaient des parias sociaux. Et les femmes qui mettaient au monde ces enfants, les filles, celles qu'on appelait les filles mères, elles étaient des réprouvées. Elles devaient affronter dans la société avec une marque sur le front, vraiment. Donc aujourd'hui, qui a l'idée de juger d'un enfant selon que ses parents sont mariés ou pas? Non seulement la distinction n'intéresse plus personne, mais il y a plus d'enfants aujourd'hui qui naissent de parents non mariés que de parents mariés. Et en 2005, je termine là-dessus, en 2005, notre droit civil a purement et simplement effacé du code la distinction entre filiation légitime et naturelle, alors que cette distinction était organisatrice de toute la parenté et au-delà même de l'ordre social. Voilà donc quelques éléments qui marquent la particularité du mariage en France et peut-être un peu plus largement en Occident. Merci.
Ça serait pas Robert de Saint-Loup ? Robert de Saint-Loup. Voilà, c'est bien ça, hein, c'est l'officier marié homosexuel. Alors, on ne peut pas remplacer Soudhir Kakar. Ce que je vais vous dire relève de nombreuses conversations avec lui et d'un travail que nous avons fait en commun. et qui a été publié, mais également de 29 ans d'observation en Inde et de très nombreuses conversations que j'ai eues avec des amis qui ont fait des mariages, amis OS, qui ont fait des mariages d'amour en Inde, rareté, et des amis qui ont fait des mariages arrangés. Donc c'est un peu toute cette expérience que je vous propose de vous restituer. Je vais commencer par trois faits divers. Le premier est de 2012, avril 2012, c'est le plus récent. Je lis le titre de la dépêche, le mariage forcé entre deux enfants de 1 an et 3 ans, annulé. Deux jeunes adultes ont récemment fait annuler leur mariage, célébré par leur famille, alors qu'ils n'avaient qu'un an et 3 ans en Inde. Et c'est, semble-t-il, la première fois qu'il y a une jurisprudence sur ce sujet. Les mariages d'enfants sont illégaux depuis la Constitution de 1950. C'est donc ça, on va sans arrêt être confronté entre la non-application de la violation perpétuelle de la loi, particulièrement dans le monde rural qui est très important et qui compte massivement en Inde et qui résiste énormément à toutes ces affaires de législation nouvelle. Le deuxième fait divers est de décembre 2009, un peu plus tôt. Il concerne, c'est une histoire que j'ai souvent racontée, si parmi vous, il y en a qui l'ont déjà entendue, qu'ils veuillent bien me pardonner, c'est l'histoire de la jeune fille Vire et du jeune homme Bitou. Vire et Bitou étaient lycéens, disons, dans le même collège, et sont tombés amoureux l'un de l'autre. Lui avait 17 ans, elle devait en avoir 16. Ils ont décidé de se marier. Vire est rentrée chez elle, et elle a dit à ses parents « je veux me marier avec Bitou ». Les parents ont dit évidemment non, puisque 99,9999% des mariages en Inde sont arrangés par les parents. Mais là, il s'est passé quelque chose. Vire s'est arrosée d'essence et elle a mis le feu. Elle est morte le soir même. Le lendemain, on a procédé à la crémation de ce qui restait, de ce qui n'avait pas encore été brûlé. Et le surlendemain, les gens de la famille, particulièrement les femmes de la famille, sont venus, comme c'est la coutume, ramasser ce qu'on appelle les fleurs des morts, c'est-à-dire les cendres. Et on n'a pas retrouvé un crâne, on a retrouvé deux crânes. C'est-à-dire que Bitou a attendu que tout le monde soit parti pendant que le bûcher flambait, et il s'est jeté dans les flammes lui aussi. Ça, c'est décembre 2009. C'est un événement, pour moi, considérable. C'est Roméo et Juliette, première version. Ça n'arrive pas, ça arrive dans les poèmes, dans les chansons, dans les films, mais dans le réel, c'est un événement considérable. Enfin, le dernier fait divers, celui-là, j'y étais. Je suis arrivé le lendemain en Inde pour un séjour de 4 ans et demi. Le 4 septembre 1987, une jeune épouse qui n'avait jamais vécu avec son mari, ça se passe dans le Rajasthan, on n'est pas très loin de Jaipur, s'est fait brûler vive sur le bûcher de son mari mort avec lequel elle n'avait jamais couché. Elle était étudiante, elle faisait des études supérieures à Jaipur, et c'était ce qu'on appelle le sacrifice de la sati. Il a été fait selon les règles, il y a eu un tribunal de Brahman pour examiner si c'était bien sa demande, et ça a donné lieu à une polémique qui dure encore en un certain sens. Donc voilà trois événements qui concernent dans tous les cas des mariages hindous. Pour les mariages musulmans, il y avait, mais ceci est beaucoup plus ancien encore, pas tellement plus ancien en fait, ça s'est passé dans les années 80, il y a eu une décision prise par Rajiv Gandhi, quand il était Premier ministre, donc c'était en fait déjà 84 ou 85, et qui a concerné le cas d'une, l'affaire qu'on appelle Shabano, c'est qui a concerné le cas d'une femme musulmane assez âgée, que son mari avait répudiée à la musulmane, donc hop, en la sortant sans pension alimentaire, elle a été portée plainte devant la justice, et Rajiv Gandhi lui-même a donné l'instruction d'appliquer la charia. Et donc elle n'a pas eu de quoi vivre, et cette affaire a remué toute la moyenne bourgeoisie indienne, et continue encore à la remuer. Alors je vous ai apporté, pour vous montrer ce que c'est que les mariages arrangés, quelques-unes des petites annonces du Sunday Times of India, que j'ai acheté en février 2011 dans la ville de Gurgaon, qui est une grande ville champignon à côté de Delhi. Alors, évidemment, c'est en anglais, donc je ne vais pas vous traduire tout ça. Je vais chaque fois vous dire pourquoi je vous le montre. Là, je vous le montre pour le mot qui s'appelle manglik, que vous voyez en haut. qui se dit aussi mangalique, et on en aura un autre exemple. Sont mangaliques les gens, personnes, filles ou garçons, qui sont nés sous une certaine constellation astrologique, faste ou néfaste. Mais toujours est-il que quand une fille mangalique épouse un garçon qui n'est pas mangalique, elle le tue, sans le faire exprès bien sûr. Hein. En tout cas, c'est un mariage mortel. C'est tellement vrai, donc voilà pourquoi là le mangalique prend une signification tout à fait particulière. Vous connaissez la très belle actrice Aishwara Rai, celle qui a des grands yeux verts et qui est si belle. Hein. Elle a épousé il y a 3 ans maintenant le fils d'un très grand acteur, et elle est mangalique et lui il n'est pas mangalique. Comment sortir du problème? Eh bien, on a fait 2 mariages. Elle a d'abord épousé un arbre qui a pris le sort, et ensuite elle a épousé son fiancé. Donc voici l'un des éléments qu'on trouve dans les petites annonces. Dans l'annonce suivante, non? Oui, ça, l'annonce suivante, c'est la même mangalique. Voilà, c'est une autre mangalique. Voilà. On passe à ça que je ne vous ai mis comme signalétique, simplement parce que c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui essayent de faire des mariages arrangés entre des Indiens et des Pakistanais. C'est-à-dire que la société civile indienne, en tout cas dans le nord de l'Inde, et particulièrement les Sikhs et particulièrement au Punjab, travaillent beaucoup au retissage entre les liens du pays. Il y a des matchs de cricket, et il y a ces petites annonces matrimoniales qui sont quand même extrêmement singulières, puisque, comme vous le savez tous, les liens entre l'Inde et le Pakistan, sur le plan diplomatique et politique, sont au plus mauvais depuis l'indépendance. Un petit peu mieux ces jours-ci, mais enfin bon. Ensuite, voilà, ce qui m'intéresse dans cette annonce-là, vous avez à la fin du... C'est une fille, Beautiful Postgraduate Jat Sikh Girl, donc c'est elle qui cherche. Hein. C'est une fille Sikh. Jat, ça veut dire qu'elle est de haute caste Sikh, même si les castes ne sont pas censées exister chez les Sikhs. Elle est diplômée, elle est belle, et elle veut un grand clean shaven, c'est-à-dire un Sikh imberbe. Un Sikh imberbe, ça veut dire qu'il est laïque. Ça veut dire qu'il a renoncé à la loi sacrée des Sikhs, puisque la loi sacrée des Sikhs interdit qu'on se coupe le moindre poil. Non. Moi, j'ai vu naître ça, je crois. Enfin, j'ai vu naître ça, oui. Je crois que je peux dire ça, puisque je sillonnais l'Inde beaucoup avant 87, date à laquelle j'ai commencé à y vivre. Et il y a eu la nuit de l'assassinat d'Indira Gandhi, qui a été assassinée par 2 de ses gardes Sikhs. Il y a eu un pogrom de 3000 Sikhs dans la ville de Delhi. Ça a été une atrocité absolue. Et on a commencé à voir apparaître dans les annonces matrimoniales, moi j'en ai des collections, des piles, depuis 29 ans je les collectionne, les petites annonces matrimoniales. Et on a commencé à voir apparaître les annonces avec clean shaven, ça veut dire le Sikh qui n'est pas dangereux pour un mariage parce qu'il n'est plus reconnaissable. Nous en avons parlé, mon compagnon et moi, il était à l'époque ambassadeur de France, à un ministre Sikh laïcisé. C'est-à-dire rasé. Hein. On lui dit qu'est-ce qui reste quand il n'y a plus rien, qu'est-ce que c'est que le clean shaven quand il n'y a plus les poils. Et il nous a montré son poignet, il nous a dit il reste le bracelet de fer. C'est la chose qu'on n'enlève jamais. Donc il reste quand même une signalétique. Mais on voit de plus en plus de filles qui demandent des Sikhs glabres. Ensuite, l'étape suivante, c'est simplement pour monter Schedule Caste et Schedule Tribes. Ce sont les deux sous-ensembles les plus défavorisés, juste avant les parias. Enfin, on appelle maintenant tout ça Dalit, mais sous ces castes très basses, il y a ce qu'on appelait les parias, que les Anglais ont appelé intouchables, et nous aussi. Et là, ce sont des castes très basses et des aborigènes. Montrer que les petites annonces se démocratisent quand même, puisqu'elles touchent maintenant... Il n'y a rien de particulier à relever, simplement le titre. Ça veut dire que les castes les plus basses s'y mettent. Bon, ensuite, un petit peu d'américanisation quand même. Hein, un petit peu de Bollywood. C'est ce qu'il y a en haut à droite de la grande page des annonces. Hein. Et enfin, voilà. Alors là, vous avez... l'équivalent du speed dating, hein. Je ne l'ai pas tellement pris pour ce que ça annonce. Ça annonce, faites un mariage arrangé correct, hein. Mais ce qu'on voit très bien, c'est que c'est le marié qui est voilé. Et ça, il est voilé généralement par une série de Généralement, c'est les fleurs de jasmin, le plus joli, c'est les fleurs de jasmin qui pendent les unes à côté des autres. Ça peut être des guirlandes de Noël. Là, je ne sais pas exactement avec quoi il les voilait. C'est un voile qui laisse transparaître vaguement les traits du visage. En tout cas, c'est le marié qui est voilé. La mariée ne compte pratiquement pas dans la cérémonie, je veux dire. La cérémonie elle-même dure 3 jours et elle coûte un argent fou aux parents de la mariée. On va parler ensuite de la dot, parce qu'il n'y a pas que ça. Mais le mariage lui-même coûte un argent considérable aux parents de la mariée. Il fut une époque, je ne sais pas si c'est encore vrai, où mes amis indiens me disaient ça doit coûter l'équivalent d'un an de salaire. Ce qui vous explique que lorsque Lakshmi Mittal marie sa fille, eh ben, un an de salaire, c'est l'allocation du château de Vaux-le-Vicomte, l'allocation du palais de Versailles et l'allocation du château de Fontainebleau, pour chacun des 3 jours. C'est un an de salaire de Lakshmi Mittal, patron de ArcelorMittal, comme vous savez. Alors, c'est un an de salaire selon la proportion de ses revenus. C'est déjà un poids considérable, les 3 jours de la cérémonie du mariage. Mais il y a en plus le problème de la dot. Elle a été légalement interdite dans les années 60, je crois que c'est 1963. Parce que c'était très dangereux. Et c'était très dangereux, ça faisait peser sur les filles et sur les parents des filles un poids insupportable. Interdite sous forme de donation d'argent, ça a été immédiatement remplacé par une liste de biens matériels extrêmement précis dans lequel il y a généralement le réfrigérateur, la télévision, le scooter, la voiture. J'ai filmé avec José Dayan, après avoir interviewé Indira Gandhi sur ce sujet quelques mois avant son assassinat. On a filmé un très pauvre mariage dans une banlieue très pauvre de Delhi. Il y avait quand même un échange de couverture, il y avait un échange de postes de radio, et je ne doute pas que la liste ait été plus longue, c'était le début. Lorsque, au bout de 6 mois, la liste des objets n'est pas fournie par les parents du marié, se produisait, parce que ça a quand même tendance à diminuer, ce qu'on appelait les meurtres pour la dot, dowry's murders, c'est-à-dire que la belle-mère ou le mari arrose d'essence la jeune mariée et craque une allumette. Et c'est déclaré comme accident domestique. Ça allait, dans ces années-là, ça allait jusqu'à 10 à 20 000 jeunes femmes assassinées de cette façon par grande ville de l'Inde. C'était un véritable massacre. Indira Gandhi en était bien consciente, puisque c'est moi qui l'ai interviewée au nom de Simone de Beauvoir, qui m'avait demandé de faire cette interview. Et comme l'Inde est un pays très légaliste, que les brahmanes sont l'incarnation d'une bureaucratie, c'est un pays immensément chaotique et immensément bureaucratique, elle attendait une jurisprudence. Donc elle avait posté des gens un peu partout pour prendre quelqu'un sur le fait, en train de craquer l'allumette sur la jeune femme qui allait brûler. Et c'est arrivé avant sa mort, il y a eu une jurisprudence, et il y a donc des punitions possibles. C'est un problème qui n'est quand même pas complètement réglé. Évidemment, le veuf se remariait aussitôt, quand il n'avait pas eu son réfrigérateur la première fois, il l'avait la seconde, et puis il pouvait se remarier autant de fois qu'il voulait, avec autant de femmes brûlées qu'il voulait. À quoi s'ajoute le problème des satis? C'était sidérant de voir le 4 septembre 87 réapparaître une coutume interdite par les Anglais, alors certes par les Anglais, en 1829. 1829 quand même. Hein. On savait bien que de temps en temps il y avait des réviviscences, mais quand même, là, en plein cœur du Rajasthan, de façon extrêmement publique, c'était l'amorce d'un mouvement d'extrême droite qui a exactement le même type de caractéristiques que le mouvement d'extrême droite en Europe et qui existe et qui existait avant même l'indépendance et qui maintenant a repris du poil de la bête, naissance d'un parti de droite conservatrice qui s'est appuyé sur cette aile d'extrême droite, la Maharani de Jaipur, celle qui a écrit Les souvenirs d'une princesse, A Princess Remembers, vous savez, la poétique jeune femme si belle qui était la troisième épouse d'un Maharaja qui était un très beau cavalier, eh bien, elle a patronné cette cérémonie de sati. C'est quand même intéressant de voir ça. Elle était députée au Parlement et elle a patronné cette cérémonie. Ça, c'est l'extrême droite hindoue, pas indienne, hindoue. Hein. Ça ne vaut pas pour toute l'Inde. Là, je vous parle du nord de l'Inde. De toute façon, quand il s'agit de l'Inde, il faudrait commencer par répondre « ça dépend ». Ça dépend où, ça dépend quelle caste, ça dépend quelle ville, ça dépend quelle... Ça n'existe pas du tout dans le sud de l'Inde. Plus on descend dans le sud de l'Inde, plus le sort des femmes est meilleur. Et c'est particulièrement vrai et du Kerala et du Tamil Nadu. Mais là, je vous parle de choses qui se passent dans le Nord. Ce qui se passe alors, je pense, je crains que ça ne soit dans toute l'Inde, est aussi ce que le Premier ministre actuel, Manmohan Singh, a appelé le féticide féminin. Même phénomène en Chine. Hein. C'est-à-dire que maintenant que les échographies existent et qu'on peut voir le sexe de l'enfant, on peut procéder à un avortement sélectif lorsque le fœtus est un fœtus de fille. Ça fait très longtemps que cette pratique existe. Les échographies ont été interdites. Il y a eu des médecins qui se sont laissés corrompre. Et à l'arrivée, au bout de 15-20 ans d'échographie pratiquée en douce, il manque 10% de filles en Inde, comme il manque 10% de filles en Chine. Or, ça provoque, évidemment, ça commence maintenant à provoquer des évolutions aussi considérables que celles que vient de décrire Irène Théry. Par exemple, au Bangladesh, on va enlever les filles. C'est-à-dire que les gars du Bihar, qui est une province qui n'est pas loin du Bangladesh, c'est pas frontalier, ce qui est frontalier c'est le Bengale, mais les gars du Bihar qui sont plutôt des pauvres, ils vont faire des razzias de filles au Bangladesh. Curieusement, il y a une forme de mariage archaïque dans les textes sacrés les plus anciens, qui est une forme de mariage par enlèvement. Et puis, au Punjab, comme on manque désespérément d'épouses, on vient d'inventer les Draupadi. Draupadi est un des principaux personnages, le personnage féminin central du Mahabharata. C'est une femme qui, dans cette vaste épopée du Mahabharata, a 5 maris. Elle est l'épouse de 5 maris. Eh bien, les femmes Draupadi, à l'heure actuelle, au Punjab, sont les femmes que l'on flanque dans les bras de 5 maris. Et c'est en train de se faire. Cette modification est en train de se faire, et c'est le résultat direct du fait de ce que Manmohan Singh a bien raison d'appeler le féticide féminin. Enfin, je voudrais parler des... Alors, dans les séries des mariages, il y en a quand même un qui était qui me plaisait bien, moi, hein, qui plaisait d'ailleurs à tout le monde. Dans les textes sacrés, dans les modalités des mariages, il y avait le mariage par enlèvement, le mariage avec une dot, le mariage arrangé, et le mariage par inclination réciproque. Sans cérémonie, sans rien, autrement dit, le mariage d'amour. Celui-là, il a totalement disparu. Je pense que le suicide de ces deux jeunes gens, Vir et Bitu, est l'un des tout premiers signes de la renaissance de ce type de mariage, qu'on appelle, je crois, Gandharva. C'est-à-dire que l'amour coup de foudre avec sacrifice de la vie, ça, c'est une chose qui commence à apparaître. Quant au mariage d'enfants, il n'existe plus, je crois, que dans le Rajasthan. C'est quand même c'est quand même une région très particulière, le Rajasthan. C'est peuplé de Rajputs. Les Rajputs sont directement venus des steppes. Ce sont des hindous dont certaines hautes castes avaient eu la permission de manger de la viande. Enfin, ils sont assez particuliers. Toujours est-il que là, les mariages d'enfants continuent à se pratiquer. Et puis, c'est en train de gagner, malheureusement, les États d'à côté. J'habite généralement dans un petit village de l'Ariana, avec des amis indiens, on a formé une ferme coopérative, et dans ce village, qui est un village indien de 10 000 habitants, ce qui est la taille moyenne d'un village en Inde, bon, tout est normal, hein, enfin, tout était éperdument normal, et dans ce contexte éperdument normal, le gros propriétaire du coin a marié sa fille de 10 ans l'an dernier, non, il y a 6 mois, l'an dernier, à un gars de 25 ans. Voilà. Et au nez et à la barbe de toutes les autorités, tous les députés sont venus, tous les notables sont venus, tous les représentants de la loi sont venus, et ils ont assisté à cette cérémonie illégale. Alors, restent les conversations. Est-ce que j'ai encore 5 minutes? Oui, j'ai juste 5 minutes pour raconter ça sera très vite fait. Les mariés, j'ai une amie qui a fait un mariage d'amour, et un mariage d'amour progressiste, fille de député de gauche, enfin du parti du Congrès de gauche, je crois même plus à gauche, elle, brahmane, a épousé un guerrier de la caste en dessous. Et mariage d'amour. Bon. Ce qu'elle me raconte, et ce que je vois depuis maintenant 29 ans, que nous sommes extrêmement liés, ressemble absolument à ce qui se passe chez nous. C'est un mariage amoureux avec des disputes, etc. Il n'y a pas de divorce en vue, en revanche. Ça n'est pas possible. Il y a des tromperies, mais il n'y a pas de divorce. Et puis, à peu près sur la même durée d'amitié, une autre de mes amies, brahmane, qui a fait également un mariage décalé, puisqu'elle a épousé le fils d'un raja et d'une juive de Berlin. C'est quand même pas courant. Hein. Et elle a fait un mariage arrangé. Alors elle, je peux vous dire que je l'ai cuisiné. Hein, sur comment ça se passe le mariage arrangé. Alors bon, la nuit de noces, comment ça se passe? Ben, on est très timide, enfin, bon, c'est très compliqué, etc. Mais qu'est-ce qui se passe après? Hein, ben, après, il y a tout de suite les enfants. Et ça rapproche. Et avec les enfants naît l'amitié. Et au bout de l'amitié, il y a l'amour. Je me contente de répéter ce scénario que j'ai vu, en effet, se produire un certain nombre de fois. Je ne porte aucun jugement sur ce chemin sentimental parce que je l'ai vu sous mes yeux se faire et marcher. Donc voilà. Et chaque fois, naturellement, les bons mariages arrangés, ceux qui marchent très bien, disent en ricanant « Et c'est quoi le taux de divorce en France, au fait ?» Et bien entendu, que voulez-vous qu'on réponde ? Voilà. En revanche, ce qui me paraît important de souligner, sauf que c'est avec l'histoire de Vire et Bitou, ces deux adolescents, c'est peut-être en train d'arriver, c'est que dans le système matrimonial indien, toute religion et toute caste confondue, l'amour fou n'est pas encore entré en ligne de compte. À mon avis, il ne va pas tarder, et ça va être une modification spectaculaire. Mais je peux me tromper, c'est simplement la prévision que je me permets de faire. Voilà, j'ai fini.
Merci, merci à toutes les deux. Alors pour lancer la discussion, je voudrais repartir de la définition de Portalis. Le mariage est un acte naturel qui a fixé le regard des législateurs et que la religion sanctifie. Puisque on a l'impression que dans les exemples que vous avez donnés en Inde, on a plutôt une inversion, c'est-à-dire alors dans le mariage européen...
Une inversion.
Une inversion, oui. Des rapports entre nature et société, c'est la question que je voulais poser. C'est-à-dire que en Europe, on a l'idée que la nature, c'est la sexualité dans son caractère incertain, sur d'où viennent les enfants, et le mariage vient stabiliser cette incertitude. Alors que en Inde, c'est plutôt un ordre social naturalisé, et l'incertitude vient de la position de celui avec laquelle on se marie.
Est-ce que je peux répondre, Irène, si vous permettez ?
Oui, bien sûr.
Oui, c'est sûrement vrai, mais je pense que ce qui pèse sur le tout, c'est le statut métaphysique de la femme. Dans les textes sacrés, la femme est métaphysiquement l'égale d'un paria. Point final. Avoir une fille pour nombre de parents encore maintenant, c'est pour ça qu'il y a tellement d'avortements sélectifs. C'est comme ça qu'on en arrive à cette folie furieuse. C'est parce qu'une fille, non seulement c'est pas un cadeau, mais il va falloir la nourrir, l'élever, hein, l'habiller, l'éduquer. Ensuite, la marier, ça coûte extrêmement cher, et ensuite on la revoit plus. Donc c'est un mauvais investissement. Et la pensée indienne sur le mariage, c'est ça. C'est un mauvais investissement financier. Et c'est quand même très très prégnant, ça. Alors je ne sais pas où on peut articuler le rapport entre la société et le naturel là-dedans. La fille a quand même une utilité, pardon, elle fait des enfants.
Mais il n'y a pas, comme dans le mariage européen, l'idée que la nature serait extérieure à la religion comme quelque chose qu'il faudrait contrôler.
La possibilité de l'extériorité à la religion en Inde, quelle que soit la religion, il y a 7 grandes religions en Inde, vous les prenez toutes les 7, la possibilité d'extériorité à la religion me paraît presque impossible.
C'est là peut-être que justement la comparaison est intéressante, parce que je n'ai pas eu le temps de donner tout le contexte de cette citation de Portalis, mais ce qui est sûr, c'est que au moment des Lumières, du siècle des Lumières, puis jusqu'aux révolutions démocratiques, un des débats, c'était comment est-ce qu'on peut penser un monde indépendamment des questions religieuses ? Comment on peut penser une cosmologie indépendamment de la révélation ? Quand même, on peut dire toute l'entreprise des Lumières, c'est ça, c'est essayer de penser l'être humain en dehors de la révélation, comme dirait l'autre, faire par hypothèse ce qui est une impiété, comme si Dieu n'existait pas. Et donc toute l'idée dans ces débats d'un passage de l'état de nature à l'état de culture, c'est cette mythologie qui consisterait à pouvoir penser la vie en société, l'être humain, sans recourir à l'autorité de l'écriture. Et ce qui me frappe, c'est effectivement dans cette réflexion, la place qui a été accordée au mariage. et qui n'a pas été remarqué par les politistes qui se sont intéressés au contrat social, parce que voilà, les études de genre, ça sert quand même à ouvrir les yeux sur des manques, et il y avait un aveuglement à l'importance de cette dimension. Donc les spécialistes de sciences politiques, ils se sont intéressés au contrat social, mais ils ne se sont pas intéressés au fait que, au moment où l'homme qui est censé, alors dans la mythologie, c'est une mythologie, hein, qui est censé vivre dans les bois, tout nu, et puis à un moment il va abdiquer sa liberté contre la société, cet individu, il n'est pas isolé, il n'est pas seul. Hein. Ce que nous décrivent les philosophes, Rousseau, Locke, etc., c'est des individus qui, avant même le contrat social, vivent déjà un premier contrat, en quelque sorte, qui serait naturel. Et c'est la formule de Rousseau, hein, la première des sociétés et la seule naturelle, c'est justement la famille conjugale. Donc, dans la citation de Portalis est importante, parce que Portalis était un grand connaisseur de Rousseau, et il a utilisé la réflexion sur l'état de nature pour dire, au fond, il y a une institution, et une seule, qui existe avant même un contrat social. C'est ça qui est incroyable, qui conforme à notre nature, et c'est le mariage. Alors, quand on réfléchit sur la place absolument exorbitante qui est accordée au mariage, qui fait qu'on fait de la famille conjugale, père-mère-enfant, l'élément naturel du social, une formule qui est encore aujourd'hui dans la déclaration de 48 des droits de l'homme. La famille est l'élément naturel du social. On dit le social n'est pas fait à partir d'individus, il est fait à partir, en fait, du trio homme, femme, enfant.
Il va falloir le bouger, voilà. Ça, donc.
Alors ça, c'est la mythologie qui s'est constituée à l'entrée dans la modernité et qui reposait, quand on creuse un peu, sur l'idée d'une complémentarité hiérarchique entre l'homme et la femme, une forme de naturalisation de l'hétérosexualité comme la seule conforme à la nature, la vocation procréative la assurant aussi les choses. Et l'anthropologie, il faut le dire ici, a quand même consisté à questionner cette mythologie d'un mariage originel. Et Lévi-Strauss, pour lequel je sais à quel point vous avez de l'admiration, même si on peut critiquer, je l'ai fait moi-même, ces théories sur l'échange des femmes, etc., il a eu le mérite de très bien montrer que cette représentation dont nous sommes héritiers, qui est une représentation, une mythologie moderne, en quelque sorte, ne tient pas compte de la question de l'interdit de l'inceste. Quand on nous décrit ce mariage à l'état de nature, on oublie une chose, c'est que justement, tout le monde ne peut pas épouser tout le monde. Et donc, on oublie que autour d'une famille, la famille n'est pas l'élément premier avec un mariage qui serait en quelque sorte inscrit dans nos besoins. Une famille nucléaire n'existe que si une autre famille a donné qui sa fille, qui son fils, etc., en fonction de règles sociales. Et tout ça pour dire qu'au bout du compte, essayer d'isoler une famille conjugale ou un mariage avant le social n'a pas de sens. Voilà, c'était long, mais c'est ça les enjeux aujourd'hui, de dénaturaliser. C'est pas d'empêcher de ne pas reconnaître les corps, la biologie, la procréation. C'est de penser que c'est dans un horizon de sens qui doit les remettre dans une tradition sociale.
Voilà. Je sais pas pourquoi ce que vous dites me rappelle une histoire qui est à la fois comique et bizarre. Indira Gandhi a fait aussi, elle qui était de famille brahmane, des brahmanes du top niveau des brahmanes, les brahmanes du Cachemire, qui sont les super brahmanes, elle a épousé un parsi, Feroz Gandhi, hein, à ne pas confondre avec le Mahatma Gandhi, il n'y a qu'une synonymie de nom, mais absolument aucun rapport de parenté. Bon, elle tombe amoureuse de son beau parsi, elle l'épouse, elle va voir Gandhi.
Donc
l'amour et le mariage, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est le conseil, c'est la sollicitation furieuse, plutôt, devrais-je dire, l'injonction qu'a donnée Gandhi à ce jeune couple. C'est « Faites donc un mariage blanc, ne couchez jamais ensemble ». Et c'est ça, je trouve cette histoire, elle n'a pas suivi ses conseils d'ailleurs. C'est aussi une mythologie, ça a été une des mythologies du mouvement pour la liberté de l'Inde. Hein, il est né dans... dans ce, il est né dans ces transgressions, ces petites transgressions par-ci, ces folies ascétiques de l'autre, et tout ça a l'air complètement effacé maintenant. Le mariage arrangé et l'histoire de Dot recouvrent une majorité d'Indiens, particulièrement les nouveaux riches. Les nouveaux riches sont encore plus accrochés que les familles traditionnelles à la tradition la plus rigide du mariage.
Je voulais vous poser une autre question, justement. J'ai été frappé par le fait que vos deux exposés étaient construits sur des oppositions très différentes, c'est-à-dire en Europe, l'opposition enfant légitime, enfant illégitime, avec l'idée que le mariage rend légitime un enfant qui pourrait ne pas l'être. Question qui ressurgit aujourd'hui à travers la question de l'homoparentalité, notamment. Alors qu'en Inde, tout était construit autour de l'opposition mariage d'amour, mariage arrangé. Et le mariage d'amour...
Il y a aussi le mariage par enlèvement, hein, il est dans les textes.
Oui, qui est une façon de refaire le stock. Oui. Mais le mariage d'amour, ici, n'est pas du tout, comme chez nous, la base sur laquelle on construit le mariage, mais plutôt une sorte de folie sacrificielle, pratiquement.
C'est un truc qui vient du cinéma, point final.
C'est donc une invention,
séries télé américaines.
Une invention assez récente. Rétrospectivement, on se dit que l'opposition enfant légitime, enfant illégitime, était quand même assez généreuse, parce qu'elle permettait au moins à tout le monde de pouvoir légitimer un enfant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, c'est pour revenir au point d'Irène Théry, sur lequel le mariage est la mesure du potentiel démocratique d'une société.
C'est compliqué, parce que il y a beaucoup de choses dans votre question. D'abord, revenons sur mariage d'amour, mariage arrangé. Moi, ce que j'ai retenu de votre exposé, c'est que vous émettiez quand même des réserves sur cette opposition, au moins telle qu'on la comprend d'habitude, puisque vous nous avez expliqué, je crois que c'est très juste, que dans les mariages arrangés, il y a de l'amour, et vous l'avez vous-même vu.
Il y a de l'amour à la fin.
Il y a de l'amour à la fin. Alors, c'est très important de savoir que... Parce qu'aujourd'hui, on revient... J'ai entendu Luc Ferry, en particulier, parler de ça, sur l'idée que le grand changement, ce serait le passage du mariage d'intérêt au mariage d'amour. C'est pas ce que racontent les historiens du mariage. Nos historiens du mariage, et un des plus grands était Flandrin, mais il y en a eu beaucoup d'autres, disent qu'il y a toujours eu de l'amour dans les mariages arrangés. Donc, c'est pas la distinction n'est pas ou l'intérêt ou l'amour. Et d'ailleurs, toute la littérature est là pour témoigner qu'il y a un lien très profond entre le mariage et la question de l'amour.
Elle dit aussi beaucoup le contraire.
Voilà.
Hein.
Et par ailleurs, donc il y a un lien. On n'a pas ignoré l'amour dans le mariage. Bon. Et par ailleurs, aujourd'hui, où on est censé faire des mariages d'amour, les sociologues vous expliqueront que toutes les études sur le choix du conjoint montrent que, comme par hasard, on n'épouse pas du tout n'importe qui, hein, et que nos amours nous poussent vers des gens qui ont vraiment, avec une régularité parfaite, toutes les raisons de nous intéresser, on va dire. Donc, c'est peut-être pas tellement... Il y a bien une distinction à élaborer, mais c'est peut-être pas celle de l'amour et de l'intérêt n'est pas peut-être la bonne, c'est ça que je veux dire. C'est peut-être plutôt la question de savoir si on conçoit le lien matrimonial comme une alliance entre deux familles, entre deux lignages, entre une alliance vraiment entre deux groupes par la médiation des époux, donc qui marient plus qu'eux-mêmes en quelque sorte, hein. Et qui vont situer à partir de cette alliance les leurs et dans la société, ou si on considère le mariage, finalement, ce qui est quand même le cas beaucoup chez nous, on considère plus qu'on épouse la famille de son mari ou de sa femme comme une affaire entre deux individus.
Il me semble que c'est en fait ni l'un ni l'autre. Dans l'une des traditions de l'Inde multiple. Il y avait, je ne sais pas si ça se pratique encore, l'interdiction pour la fille, si elle ne s'entend pas avec le mari, elle a l'interdiction absolue de retourner dans sa famille. Donc les familles sont... On donne la fille, je dirais presque qu'on en débarrasse. Hein. Et puis après, elle fait partie de la nouvelle famille. Les romans contemporains indiens, et notamment ceux écrits par les auteurs de la diaspora, ceux qui sont en Angleterre ou aux États-Unis, racontent extrêmement bien ce genre de situation.
C'est fréquent, ça, que
ah oui, oui, oui.
Elle quitte. Parce que dans oui, la oui. tradition occidentale, c'est presque le contraire. C'est-à-dire que la femme qui se marie, elle va donner des enfants dans la tradition, dans la France traditionnelle, même d'Ancien Régime, mais encore dans la France moderne, elle va donner des enfants au lignage ou à la famille de son mari. Hein, et en même temps, elle n'entre pas dans la famille de son mari. Et il faut jamais oublier que ça n'est qu'il y a qu'une dizaine d'années, je crois, que le conjoint survivant a été considéré comme très important dans la succession de quelqu'un. Encore il y a 10 ans, si vous étiez marié et que vous décédiez, votre frère ou votre sœur héritait avant votre mari ou votre femme.
C'est juste. Dans la tradition indienne, la fille est phagocytée par l'autre famille. Et elle n'a pas le droit. J'ai longuement filmé aussi à Calcutta un jour de cérémonie d'un des cultes de la déesse laquelle c'était. C'était Durga, voilà. Une fille qui avait osé revenir chez ses parents, hein, parce qu'elle avait été battue presque à mort par son mari. C'était une famille de commerçants aisés, richissime. Enfin, pas seulement aisés, richissime. Hein. Le père avait par exception, accepter de recevoir sa fille. J'ai longuement discuté avec le père, avec la fille, etc. Ils avaient l'impression de faire une transgression absolument horrible. Le résultat pour la fille était qu'elle était tellement mystiquement attachée à cette déesse dont elle célébrait la fête, que lorsque le prêtre brahman a coupé le tout petit fil de rien du tout qui signale que la déesse est encore présente, quand le fil est coupé, elle est partie, la fille s'est effondrée en sanglots. Parce que sa mère venait de partir. C'était quelque chose de tout à fait... On voyait bien là quand même qu'il y avait, dans le fait qu'une fille était acceptée dans le foyer paternel, quelque chose d'aussi transgressif que le mariage homosexuel.
En tout cas, vous avez parlé beaucoup des femmes, et c'est vrai que le principal moteur pour nous des changements du mariage, je pense que c'est la transformation du statut des femmes. On l'a souvent présenté comme un problème d'individualisme, au sens... Bon, c'est pas faux dans un sens très vaste, mais je pense que le vrai moteur des transformations de la famille et du mariage, c'est que on avait un mariage qui était en dehors du mariage. Le mariage, ça fait déjà la distinction entre ceux qui sont mariés et ceux qui ne sont pas mariés. Donc le statut des femmes et des hommes en dehors du mariage était le plus inégalitaire qu'on puisse imaginer. Et par rapport aux enfants illégitimes dont vous avez parlé, il faut savoir que jusqu'en 1912, en France, la recherche de paternité était interdite. C'était très important, ça. Ça veut dire que les filles qui se retrouvaient enceintes sans être mariées, ces filles-mères que j'ai évoquées, ne pouvaient pas poursuivre en quelque sorte devant la justice les auteurs de leurs enfants, les géniteurs de leurs enfants. Et ça, c'était clairement énoncé pour protéger les familles bourgeoises, aristocratiques, des menées que pourraient avoir des domestiques, des lavandières, d'aller revendiquer le fait que l'enfant, c'était l'enfant du fils de famille, du père de famille, etc. Donc c'était pour protéger la paix des familles, des menées de toutes ces femmes, que la recherche de paternité était interdite, parce qu'elles auraient pu mentir. Comme une femme aurait pu mentir et désigner un homme comme le géniteur des enfants, alors que ça n'était pas lui, eh bien toutes les femmes étaient considérées comme des menteuses a priori. Et donc c'est vrai que, et dans le mariage, il y avait une hiérarchie, ça c'est bien connu, entre, à travers la puissance maritale, la puissance paternelle. Donc c'est vrai que le moteur principal des changements du mariage en Occident, c'est quand même avant tout la promotion très progressive de l'égalité de sexe comme une valeur cardinale aujourd'hui de la démocratie. Ça a connu plusieurs moments.
Pareil en Inde, mais ça commence déjà depuis un petit bout de temps quand même. Mais dans les régions les plus rurales, la résistance est meurtrière. Elle est meurtrière. Il y a des parents qui tuent leurs enfants parce qu'ils ont osé prévoir un mariage avec tout seul, librement. Donc c'est une affaire qui commence à peine et qui n'est pas terminée. Je parle encore une fois du nord de l'Inde. Hein.
Et parce qu'ils ne conçoivent pas le mariage comme une affaire individuelle, alors ?
Ah, bah, pas du tout.
C'est
une affaire qui concerne ni le marié ni la mariée. Hein.
Je vous propose de poser des questions aux deux intervenantes.
Vous avez évoqué l'idée que donc le mariage.
Vous adressez à qui?
Un peu peut-être les deux. Enfin, je pense peut-être davantage à vous. Enfin, c'est autour de la question du statut de l'enfant en fait que ça se pose, je crois, parce que si c'est la, enfin, en Inde, si le mariage est bien une question d'inscription dans une lignée, dans une famille, et si c'est l'affaire des parents des futurs mariés, c'est-à-dire que leur enfant aussi n'a pas vraiment ce statut d'enfant tel qu'il l'a dans nos sociétés et qui lui permet d'avoir un choix et sa voix propre au sein de la famille, non?
Enfin. Eh bien, bizarrement, c'est pas tout à fait. C'est une des de ces contradictions que j'ai pas encore comprises, moi, personnellement. Bizarrement, dans les familles royales des Maharajas, qui sont donc la caste des guerriers, caste numéro 2 des supérieurs, hein, dans l'ordre supérieur, la tradition voulait vraiment souvent, à cause de la mortalité infantine, j'imagine, que les Maharajas ou Rajas aient le droit d'adopter en dehors de leur famille. Et l'adoption a été extrêmement fréquente dans les familles royales. Et ça n'est pas un détail, puisque c'est lorsque à l'époque, c'était pas la colonisateur, c'était la colonie, c'était la compagnie de l'Inde orientale, donc une compagnie commerçante. Lorsque le gouverneur de cette compagnie a interdit l'adoption au Maharaja, c'est un des éléments qui a déclenché la grande guerre de l'insurrection des Sipayes en 1857. Donc un truc comme ça, interdire l'adoption, ça a déclenché une guerre qui a duré 2 ans et qui a fait 150 000 morts.
S'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être revenir sur ce point, c'est-à-dire
Oui.
Mais pour prolonger la question, disons. Et ça vous laisse le temps de penser à vos propres questions. La difficulté de. On est effectivement dans des analyses de transformation comparées entre la même institution. Et on a effectivement en Europe quelque chose qui vient de l'Église chrétienne, qui a été transformé par la Révolution française. Et en Inde, on a quand même toute cette période de la colonisation. Donc dans quelle mesure est-ce que cette tradition indienne n'est pas réinventée par l'Inde démocratique qui s'émancipe du colonialisme?
Les types de mariages que j'ai énoncés, le mariage par inclination, par enlèvement, etc., sont dans les textes sacrés millénaires. Enfin, donc ceux-là, le colonisateur n'a pas pu les bouffer. Ce que la colonisation britannique a fait, et qui est très grave, c'est de rigidifier le système des castes. Je vais pas aller jusqu'à dire qu'elle l'a inventé, mais on n'en est pas loin. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont mis des étiquettes, ils ont fait une gigantesque taxinomie pour se repérer là-dedans, et les castes ont commencé à devenir beaucoup plus importantes qu'elles ne l'étaient, bien que bien sûr selon les régions, etc. Elles avaient leur, mais c'était plus flexible et c'est devenu inflexible. Je ne sais pas dans quelle mesure ça a stimulé ou ça agit sur le mariage. Il y avait peu d'interpénétration entre les indigènes, les gens à peau noire, hein, comme on les appelait, et les peaux jaunes, comme les appelaient les Indiens, c'est-à-dire les Anglais. Hein, c'est-à-dire les Anglais peaux jaunes, les Indiens peaux noires. Il y avait peu d'interpénétration. Il a fallu les premières réceptions communes datent du début du XXe siècle, hein, où il y a les deux catégorie de population, donc il y a si peu d'interférences dans la vie quotidienne que je ne crois pas que c'est pu influer. Ça a pu faire des cas isolés, comme ce Raja qui est tombé amoureux d'une juive république. Alors, Raja tombant amoureux d'une danseuse, d'une juive berlinoise, ça oui, ça c'est un scénario. C'est une des épouses, sur 4 ou 5 ou 6.
Ah oui, j'ai une question pour Madame Clément.
Où êtes-vous ?
Là. Oui. Donc, je suis d'origine indienne, enfin mes parents sont originaires du Tamil Nadu, et donc moi je suis née en France, donc deuxième génération, et j'ai constaté comme ça de manière un peu empirique, mais je n'ai pas du tout lu de texte à ce sujet-là, que plusieurs jeunes femmes qui avaient fait des études et que les parents avaient eux-mêmes stimulées pour faire des études, au moment du mariage, alors que les études étaient considérées comme un faire-valoir pour se marier, justement, ça donnait plus de valeur pour avoir une dot, etc. Finalement, après le mariage, on leur interdisait de travailler. Alors, je ne sais pas s'il y a une explication sociologique par rapport à ça.
Ben, vous avez très bien défini la chose. Je ne sais pas si on peut repasser l'une des... N'importe laquelle des... Enfin, peut-être pas les chez Doulgast, mais le diplôme rend la fille plus, elle est plus précieuse. Autrement dit, le prix de la fille est plus élevé quand elle a des diplômes. Qu'elle travaille est évidemment hors de question. C'est juste, ça lui donne plus de valeur. Oui, ça, vous l'avez très bien dit, oui. Mais vous savez, j'ai passé le concours de l'école normale en 1958. Je me suis fiancée en 1959 avec un normalien qui m'a présenté à son père en 1959, qui travaillait à l'Institut Curie, il était chimiste à l'Institut Curie, exactement dans le jardin où Hollande a prononcé son... Bon, voilà. Mon fiancé me présente à son futur beau-père. Je suis quand même normalienne, je prépare l'agrégation de philo. Et voilà le beau-père chimiste qui dit naturellement, ma petite, tu vas arrêter tes études. C'est pas si vieux que ça quand même, hein. Donc c'est pas seulement en Inde. L'idée du travail des femmes, c'était quand même très frappant. Et c'était en 1959. Certes, c'est loin. Mais bon. J'ai vécu ça. J'ai pas obéi.
C'est pas en train de changer.
Clément, vous pensez pas que...
Où êtes-vous ? Oui ?
Vous pensez pas que le sati, s'il existe encore, c'est pas simplement dû à des pressions ou à des groupes de droite, mais au sort absolument minable de la veuve au Rajasthan ?
Au Rajasthan, oui. D'ailleurs, ça n'existe que là, hein, les... on n'a plus revu ce genre.
Vous pouvez préciser pour moi.
Oui, les satis, c'est la veuve.
Non, j'ai bien compris, mais pourquoi c'est vous avez dit un statut minable.
Parce que la veuve n'a plus le droit.
Elle n'existe plus.
Voilà, elle est obligée de se raser la tête. Elle n'a plus le droit de manger de sel ni d'épices. Elle a le droit de porter un sari blanc, le même, toute sa vie. Et elle est chargée de faire le ménage. J'exagère à peine, mais c'est. Alors, ça, quand même, ça a fait des progrès. Le statut des veuves a fait des progrès. En revanche. Ce qu'on a bien vu dans cette sati de 1987, c'était que revenait en force l'idée que la femme qui se sacrifie pour son homme devient la divinité protectrice du village. Elle devient la divinité protectrice de la communauté. C'est comme ça qu'elle y a été, la petite qui s'appelait Rup Kamvar, hein. Et de façon stupéfiante, cette jeune femme si moderne, ma plus vieille amie, celle qui a fait le mariage d'amour avec toutes les engueulades qui s'en sont suivies entre les époux, etc., à peu près dans le même temps, elle m'annonce qu'elle se met à jeûner le lundi pour son mari, ce qui est uniquement une tradition indienne. J'étais sidérée, c'est-à-dire qu'on voit, on voit sans arrêt en Inde se avancer, reculer les liens traditionnels et les transformations. Et c'est une dialectique qui ne s'arrête absolument jamais. Je ne pense pas qu'il y ait de groupe de pression. Vous savez, il y a un livre écrit sur les satis par Catherine Weinburger-Thomas, qui est magnifique, et qui s'appelle « Cendre d'immortalité », et qui a fait une enquête très étendue sur les satis depuis l'origine jusqu'à nos jours. Et il y a même des satis survivantes, figurez-vous, dans des conditions très particulières. Il existe des satis survivantes, et elles sont obligées d'être volontaires, si je puis dire. On vérifie le volontariat. C'est un acte libre. Ça n'est pas un acte contraint. Lisez ce livre, c'est vraiment très, très, très passionnant. Cendre d'immortalité, Catherine Weinburger-Thomas, c'est paru au Seuil. Au Seuil, il y a déjà une dizaine d'années.
Pour des gens qui se retrouvent dans une situation vraiment très difficile, dans une communauté où on ne se suicide pas aux médicaments.
Je ne vous ai pas entendu, ben, madame.
Je ne pense pas que, pour les hindouistes, l'hypothèse du suicide soit une hypothèse envisageable.
Ah mon Dieu, tellement que qu'il y a une loi qui punit de prison la tentative de suicide, madame.
Ah oui.
Donc ça veut dire que la tentation du suicide, elle est omniprésente.
La tentation.
Oui, mais c'est quand même les suicides. En ce moment, il y a une vague de suicides de paysans dans le sud de l'Inde, et vraiment le suicide est une idée extrêmement familière, puisqu'il y a une loi pour essayer de le prévenir. Je vous dis, tentative de suicide, vous faites de la prison. Et Rajiv Gandhi a réussi à désamorcer cette histoire de sati d'abord en coupant les routes qui allaient jusqu'à ce village, hein, pour empêcher les gens d'y aller, faire des adorations, c'était une source d'argent considérable, et puis en punissant de prison l'incitation au suicide, ce qui était la seule loi nouvelle qu'il ait pu faire. Donc c'est envisageable pour un hindou, le suicide, ô combien.
Oui, ma question s'adresse un petit peu à vous deux. Ne pensez-vous pas que le mariage est d'autant plus contraignant, ou serait d'autant moins contraignant, deviendrait de moins en moins contraignant, à mesure que le poids de la ruralité diminuerait ? Une ruralité qui souvent nécessite une certaine stabilité, demande une certaine stabilité. Je pense que c'est une question qui peut s'adresser aussi bien à la partie indienne qu'à la partie française.
Oui, non, mais c'est sûr, hein, qu'en France, les transformations du mariage ont été avec la fin des paysans, donc par les mandras, avec l'urbanisation, avec le fait que la famille soit moins un lieu de production. Oui, bien sûr, je crois que vous avez raison. L'idée d'une complémentarité, la notion d'un, d'ailleurs le mot joug conjugal, il qui évoque le joug des bœufs, il dit bien ça, c'est-à-dire que cette vie commune, c'était une vie où il fallait, où on s'engageait pour faire tourner une ferme. Bon, bien sûr, oui, tout à fait.
Il est symbolisé dans le rituel du mariage hindou par le pan du turban du marié. Qui est noué au pan du sari de la mariée.
Mais cela dit, si noué je veux répondre complètement, je dirais que c'est vrai que il faut prendre la mesure de à quel point on a changé de risque. Hein, c'est vrai que dans la France traditionnelle et en particulier rurale, vous avez raison, le risque c'était d'un mauvais choix, que le mariage ait été poussé par les familles, qu'on les rencontrait au bal, qu'on se soit entiché de quelqu'un. Une fois qu'on était marié, c'était pour la vie. J'ai parlé du fait que pendant très longtemps, le divorce était interdit en France. Quand il n'était pas interdit, il était quand même réprouvé. Et donc, le joug conjugal, où on devait rester par nécessité ensemble, quoi qu'il arrive, parce qu'une femme ne pouvait pas vivre sans un homme sans femme, il fallait élever les enfants et tout ça. Aujourd'hui, c'est frappant à quel point cette menace n'existe simplement plus, mais qu'elle a été remplacée par un autre risque dont on parle moins, mais qui devrait faire l'objet de discussions aussi, qui est le risque de l'abandon. Aujourd'hui, personne n'est... Voilà, chacun sait que s'il n'est pas heureux en mariage, il pourra s'en aller, mais chacun sait aussi qu'il peut s'entendre dire un beau matin « je m'en vais », sans avoir peut-être vu venir les choses, et avec des vies qui s'écroulent, des projets qui s'effondrent, des crises d'identité monstrueuses. Et je pense qu'on peut à la fois valoriser les transformations du mariage, les libertés que nous avons construites, en particulier justement cette idée que quand un mariage est vide, quand il est malheureux, on doit pouvoir le rompre, et même d'ailleurs de justifier de pouvoir le rompre unilatéralement. Mais en même temps, il faut savoir qu'il y a des nouveaux risques. Et d'ailleurs, pour les sociologues, c'est très intéressant, parce que quand un nouveau risque est identifié, forcément, les gens cherchent à s'en prémunir. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait faire des tas d'enquêtes qu'on ne fait pas. On devrait d'abord essayer de savoir qu'est-ce qui explique qu'il y ait quand même encore près de la moitié des couples qui durent toute la vie, sans y être obligés. Quels sont les secrets des couples durables ? J'ai l'intuition que ce ne sont pas des couples qui n'ont pas eu de problème, qui n'ont pas eu de crise, mais plutôt des couples qui ont su avoir un art de la dispute, pour parler comme Stanley Cavell, hein, qui ont su dépasser des crises et ne pas justement se jeter sur la solution aujourd'hui de facilité qui est de divorcer à la première occasion. Et puis il faudrait savoir si des choses comme le fait que notre société, encore une fois très rapidement, est inventée un nouvel âge de la vie, on va dire, entre l'adolescence et l'âge adulte, avec ce recul qui ne cesse de s'approfondir, le recul à la première maternité, etc. Un nouvel âge de la vie, comme si en évitant ce qui autrefois on se mariait beaucoup plus jeune, on se mariait jeune, il y a presque 10 ans entre l'âge classique, enfin l'âge du mariage encore justement à la génération.
Oui. Moi j'ai eu mes enfants 21, 24
voilà.
ans.
Voilà. Et maintenant c'est 10 ans plus tard. avec d'ailleurs toutes les questions qui vont avec. Donc là, on peut se demander, ça m'arrive de me dire, ben, peut-être que c'est une façon dans la société, on répond à la conscience du risque en acceptant qu'il y ait un temps dans la vie qui est devenu plus long pour des amours où la famille n'est pas là à demander alors tu vas l'épouser, tu vas te marier, vous allez faire des enfants, mais au contraire la famille se tient bien en retrait, donc surtout on ne dit rien, on les laisse tranquilles, voilà, pour que s'il y a une séparation ce soit pas un drame, etc. Enfin, il se passe beaucoup de choses du fait de ce nouveau risque de l'abandon qui s'est profilé et qui n'existait pas avant.
Je prends 2 minutes pour faire la contrepartie pakistanaise plutôt qu'indienne, si vous voulez bien. Parce qu'il y a dans l'extrême nord du Pakistan, un peuple qui s'appelle les Kailash, et puis des peuples tibétains, comme il y en a dans les zones tibétaines de l'Inde, où la polyandrie est tout à fait normale, c'est-à-dire qu'une femme a forcément plusieurs maris, pour éviter de partager les terres. Donc c'est exactement ça l'objet, c'est admis comme ça. Et je pense que c'est ça la transformation qui est en train d'arriver au Punjab, c'est quelque chose du même genre. Donc oui, en effet, c'est dans la ruralité que le mariage est envisagé comme une affaire. Oui, pardon.
J'avais une autre question, mais là qui ne concerne que la partie indienne.
Là, je vous entends plus.
J'avais une autre question qui concerne la partie indienne. Vous avez parlé des hindous, vous avez énormément parlé de l'hindouisme, de l'islam, vous avez évoqué les sikhs, mais vous n'avez pas évoqué le jainisme. Dans les autres cas, on voyait des éléments de coercition pour que la femme reste dans la famille qu'elle intégrait. Pour les jaïnes, je ne connais pas très bien, mais je les associe à une certaine forme de non-violence. Existe-t-il
Vous avez une totalement raison de les associer à la non-violence, ils la pratiquent de façon absolue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de façon rigide. Et c'est même eux qui ont popularisé l'idée de suicide, justement. Puisque dans la pratique jaïne, alors que le suicide est interdit par la loi, alors qu'on a des peines, le dernier acte de la vie d'un moine ou d'une nonne ou d'un jaïne, c'est la mort de faim. Hein, c'est exactement comme l'Andura Qatar, ça ressemble absolument très pour très à ça, c'est-à-dire qu'on voit des petites annonces, ça j'aurais dû les apporter, ces petites annonces je les ai aussi soigneusement collectionnées, monsieur machin, Jaïn, ils s'appellent tous Jaïn de toute façon, hein, donc monsieur Alain Jaïn, disons, commence son jeûne à mort le temps. Hein, ça c'est l'annonce que vous voyez dans le journal. Et puis 11 jours plus tard, vous avez monsieur Alain Jaïn a quitté son corps le temps. Voilà, donc ça c'est public, et ça n'a rien à voir avec le mariage, et je ne crois pas qu'il y ait des contraintes plus vives ou différentes dans les mariages jaïnes que dans les autres religions. C'est une religion plus individualiste quand même, hein, où l'ascèse est plus individualiste.
Enfin, ma question était, je voyais des contraintes pour que les femmes, restent sous le joug du mariage dans d'autres religions évoquées en Inde.
Enfin, toutes, hein, toutes.
Et pour le jainisme, je me demandais s'il y avait, quelles étaient les contraintes, enfin, s'il y en avait, est-ce que c'est juste une contrainte?
Non, ça touche toutes les couches sociales, toutes les religions. L'Inde est un pays où il y a eu l'une des plus anciennes communautés juives du monde, avant la chute du temple, hein, avant 70, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, pardon. Et avant cela, il y a eu une communauté de juifs, qui n'existe plus d'ailleurs, elle est maintenant en Israël, qui s'est établie en Inde. Ils ont réussi à se caster entre juifs blancs et juifs noirs. C'est vous dire si le poids de l'hindouisme est important. Donc c'est vraiment tout terrain. Il n'y a guère que l'islam qui arrive à faire des mariages qui sont légèrement différents.
Merci.
Bien, merci. Nous allons devoir fermer cette séance.